Ce qui suit est une production de WebWest Balado. Entendons-nous bien.
Salut, ici Jean Fontaine. Raconte-moi l'Ouest et le Nord.
Aujourd'hui, Wanda Jemli, raconte-moi Tata Wanda.
Wanda Jemli est une autrice, conteuse et animatrice auprès des enfants dont le rayonnement fait maintenant le tour du monde grâce à son émission de télévision qui s'intitule tout simplement « Raconte à Wanda Jemli », présentée sur TV5 Monde. Native du Cameroun, Wanda a déménagé en Suisse à l'âge de 16 ans, y a fait ses études, elle s'y est installée pour plusieurs années. C'est dans ce pays d'ailleurs qu'elle va écrire ses premiers livres, dont trois qui s'adressent spécifiquement aux enfants. Et en 2011, Wanda et sa petite famille s'installent dans le Grand Vancouver, en Colombie-Britannique. Et c'est là que je la joins aujourd'hui, Wanda Jemli. Bonjour!
Bonjour, bonjour.
Wanda, j'aimerais parler d'abord de ton enfance au Cameroun, qui a été marquée notamment par de nombreux déménagements. Mais si je vais fouiller dans tes souvenirs, Wanda, parle-moi de la petite Wanda Jemli du Cameroun.
La petite Wanda est une fille de pasteur de l'église presbytérienne, assez influent. Mais la petite Wanda se demande pourquoi c'est ce titre qu'on lui rabâche tout le temps. Tu es une fille de pasteur, tu dois te comporter comme ça. Donc Wanda, a priori, n'est pas une très bonne fille. La petite Wanda est un cas, en tout cas pour ses parents. Et spécialement pour son papa.
Oui.
Voilà.
D'accord. Alors, c'est une petite fille à qui on demande d'être très tranquille, d'être très à sa place.
Exactement.
Mais est-ce qu'elle l'a été?
Non, pas vraiment. Pas vraiment. c'est pour ça que c'était énorme pour mes parents. Et étant moi-même une maman maintenant, je comprends mieux leurs problèmes. Je disais toujours à mon papa, c'est toi qui as demandé d'être pasteur. J'ai jamais demandé d'être la fille de pasteur. Donc, il faut me comprendre. Mais quand même, j'ai évolué, on dira comme ça. J'ai évolué.
D'accord.
La petite Wanda a grandi entre-temps.
La petite Wanda a grandi. À l'âge de 16 ans, elle est allée étudier en Suisse. Quand tu es arrivée en Suisse, tu ne pensais pas y passer un long moment, là. Tu voyais ça même comme des vacances, si je ne me trompe pas.
Non, c'était drôle parce que mon papa m'a envoyé là-bas. Il savait que moi, j'allais y rester. Mais ce n'est pas comme ça qu'il a utilisé la chose. Il a dit, tu vas là-bas en vacances. Mais en fait, ils ont combiné avec mon frère et ma grande sœur qui vivaient déjà en Suisse, une formule pour me sortir du Cameroun afin de me protéger. C'est ce qu'il disait, qu'elle est devenue vraiment un cas et on a peur pour elle. Donc, tant qu'à faire qu'elle vienne continuer ses études en Suisse, là-bas au moins, elle ne risque rien.
Et ben, comment ça s'est passé pour toi, Wanda, ce long séjour en Suisse?
Oui, c'était vraiment long, plus d'une vingtaine d'années, donc, pour quelqu'un qui part en vacances d'été. ça a été, pour moi, ça a été même très bien parce que j'ai compris qu'en fait, j'étais une enfant normale. Et le fait juste de quitter un pays le Cameroun et rentrer en Suisse avec mon grand frère, ma grande sœur qui y vivait depuis plusieurs années, quand ils ont compris qui j'étais, ils se sont rabâchés, eux, ensuite, sur les parents en disant « Mais c'est une fille tout à fait normale, de quoi parliez-vous ?» En fait, c'est comme ça que j'ai compris qu'ils ne m'ont pas envoyé en vacances. Ils allaient m'envoyer quelque part pour me formater à la Suisse. En pensant qu'à la Suisse, il y a peut-être moins de liberté. À la Suisse, une enfant ne sait qu'aller à l'école. En fait, mes parents voyaient la Suisse comme, je ne sais pas moi, peut-être comme le paradis qu'on décrit dans leur Bible, quoi. Alors qu'ils y étaient déjà partis hein, plusieurs fois en Suisse. Non, mais j'étais libre finalement. J'étais vraiment libre de m'exprimer comme je le voulais. Donc, pour moi, c'était très bien d'être en Suisse.
La vocation d'auteur ou autrice, vocation de conteuse aussi, elle est venue un peu plus tard parce que tout d'abord, tu as travaillé dans le milieu médical, si je ne me trompe pas, en laboratoire?
Oui et non. Ce n'est pas venu plus tard parce que si on part du principe que mon papa est pasteur, ma maman traductrice et une comédienne, celle qui écrivait des pièces de théâtre dans les églises, on va voir que, en fait, je suis née dans ça. Si je peux m'exprimer comme ça. Donc, je comptais déjà étant vraiment enfant. Et qui ne compte pas quand on est à l'église, par exemple. Donc, moi, j'ai toujours dit que mon public était énorme. Plus jeune, quand j'étais plus jeune que maintenant. Et mon papa avait plus de 1000 paroissiens en église. Et je devais compter devant ces gens-là. Donc, vous voyez, j'ai commencé à compter très, très jeune. Et qui se connaît la vie d'un pasteur? C'est un compteur, au départ.
D'accord.
Donc,
oui, c'est vrai.
Donc,
oui.
Voilà. Donc, moi, je connais le conte même avant de naître. Et je l'ai fait. Mais de manière professionnelle, oui, c'est devenu plus tard. J'ai fait une formation de laboratoire médical où j'ai même eu des postes à responsabilité. Et c'est au suivant, un problème de santé que j'ai été obligée de changer la vision de ma vie, si je peux m'exprimer ainsi. Je ne pouvais plus, avec mes problèmes de santé, je ne pouvais plus continuer dans le côté médical où j'ai quand même travaillé pendant une bonne dizaine d'années.
D'accord. Mais c'est comme un peu si ton regard avait changé, comme si la vie s'ouvrait d'une autre façon, peut-être, Wanda?
Totalement. Totalement, parce que oui, je suis retournée, parce que comme je vous dis, j'avais un poste vraiment à responsabilité et avec un bon salaire.
Oui,
donc,
oui.
C'était pas à négliger. Mais malheureusement, je ne pouvais tout simplement plus. Je ne pouvais plus. Et là, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai jamais été sans travailler. Donc, il fallait donc que je trouve un moyen. Mais heureusement que même quand je faisais du laboratoire, en fait, le seul fil conducteur que j'ai gardé depuis mon enfance, c'était des contes et l'écriture.
D'accord.
C'était le bon moment pour moi maintenant de repenser à ma vie. Pour une fois, ne pas faire ce que je sais faire et que j'aime vraiment faire.
Et donc, il y a eu ce livre pour adultes, tout d'abord, que tu as écrit. Ensuite, ça a été des livres pour enfants. Je pense qu'il y en a eu 3 qui ont été écrits en Suisse.
Mais justement, même quand j'étais dans le milieu médical, je comptais. Quand j'ai eu ma fille, alors que je travaillais toujours dans le laboratoire, elle faisait venir ses camarades à la maison. J'avais même des filles qui venaient dormir chez moi parce qu'elles savaient que la maman d'Ophélie va leur faire des contes le soir. Donc dire que la petite noire, enfin la grande noire que j'étais avec sa fille métisse, mais qui a des petites blanches qui viennent à la maison pour écouter, passer même la nuit chez moi grâce au conte. Et après, j'ai eu donc une occasion de rentrer, de travailler à une petite télé locale, c'est la télé bilingue qui existe encore. Et puis, c'est comme ça que j'ai appris justement à faire des reportages, à travailler comme journaliste, entre guillemets, et ayant donc pris confiance en moi parce que mes reportages plaisaient. Et sachant que j'adorais surtout faire des reportages qui avaient affaire avec des enfants, je me suis dit, mais si j'écris pour les télévisions et que les gens apprécient, pourquoi je ne pourrais pas écrire ça sur des livres? Avant, dans ma tête, dans les bouts de papier, parce que je le faisais, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire le premier livre et j'ai vu que les enfants aimaient le deuxième. Et ça, là, alors, c'était vraiment du bouche à oreille, comme on dit. C'était de hobby.
D'accord. À l'âge de 30 ans, une grosse décision familiale avec ton conjoint, vous décidez avec les 2 enfants de partir pour le Canada. Qu'est-ce qui t'attirait? Qu'est-ce qui vous attirait vers le Canada?
Il faut croire que c'est les restes de mon enfance, du fait que j'aime le changement. Parce que même en Suisse, déjà, j'ai pas mal boulingué hein, d'un endroit à l'autre. Mais surtout, je voulais offrir à mes enfants une autre culture. Moi, j'ai toujours pensé que c'est une bonne opportunité d'avoir plusieurs cultures. Si on a cette opportunité, il faut la saisir. Et là, ma fille devenait de plus en plus grande et mon fils venait juste de naître avant d'entrer à l'école, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et Vancouver, pour moi, était la bonne formule. C'est pas trop grand, c'est beau, ça me fait beaucoup penser à la Suisse, mais en plus grand. Le climat n'est pas très rude et en plus, on parle l'anglais là-bas.
D'accord.
On n'a pas beaucoup réfléchi. Et heureusement que j'ai un homme qui me suit. Et nous voici.
Alors, en 2011, vous voilà toute la famille au Canada. Est-ce qu'on peut dire, Wanda, que c'est là que vraiment ta carrière d'autrice et de conteuse a vraiment pris son envol?
Oui, définitivement. Définitivement. Parce que, comme je vous ai dit, en Suisse, c'était de bouche à oreille, comme ça. Mais je l'ai toujours fait. Ça veut dire quand je sors un livre, je le fais. Moi, mes signatures de livres, c'est un spectacle. Je suis une conteuse, donc c'est normal que ce soit un spectacle. Moi, je ne viens pas avec sur une petite table. Non, c'est un spectacle. Donc ici, j'ai fait exactement la même chose. J'ai eu la chance d'arriver ici où on faisait la promotion de la culture francophone. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes formidables ici qui m'ont dit, ben oui, pour ça, on doit t'accompagner. Ils ont loué la salle, ils ont fait des invitations. En fait, moi, je ne venais que faire mon travail d'auteur et de comédienne, d'artiste.
D'accord.
Tout le reste a été pris par la ville de Vancouver.
Est-ce qu'on peut dire que ça a changé ta vie?
Mais complètement, complètement, parce que là, la salle était pleine. Hein. Il y avait même des gens qui n'avaient pas de place assise au théâtre de la 16e. Là. Et pour moi, d'arriver dans un monde qui ne me connaît pas, cet accueil, mais c'était bien. C'était plus que bien d'ailleurs. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir des appels. Hein. C'est même pas moi qui ai organisé en disant le prochain spectacle sera à tel endroit et tout. Non, c'est vraiment le monde après qui a fait appel à moi.
D'accord. Alors là, tu avais évidemment tes trois livres. Est-ce qu'il y a eu d'autres livres qui ont été écrits par la suite?
Non. Là, j'avais les cinq maintenant. J'avais les cinq. Voilà, les cinq pour enfants. Donc, si on peut dire, ça fait six livres tout à l'heure, le premier adulte et les cinq autres. Malheureusement, je n'ai plus eu le temps de proposer. Hein. C'est même pas que les éditeurs ont refusé. D'ailleurs, j'ai des éditeurs qui m'ont demandé qu'est-ce que je faisais, pourquoi je ne leur propose rien, mais je n'ai vraiment pas eu le temps.
D'accord, parce que la vie va vite, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se sont passées, parce que les spectacles se sont enfilés, parce que aussi, il y a eu la télévision qui est arrivée à un moment donné. En 2017, tu es devenue animatrice de Raconte à Wanda Jim Lee. Diffusé, on disait d'entrée de jeu, sur TV5 Monde. TV5 Monde, en passant, c'est 200 pays, 60 millions de téléspectateurs en 2017. On peut dire que tout à coup, le rayonnement de Wanda Jim Lee a vraiment fait le tour de la planète.
Oui, oui, je ne savais pas que c'était jusque-là. Je savais que c'était grand, mais je ne savais pas que jusque-là, quand même. Mais en tout cas, le hic dans tout ça, c'est quoi? C'est que cette émission n'est pas diffusée ici, au Canada, mon pays d'adoption, où j'ai plus mes neveux et nièces. Et ça, c'est ça qui me titille un peu.
Ben, je comprends. Et puis, juste pour expliquer aux gens qui nous écoutent, TV5 Monde est diffusé dans 200 pays, mais ici, on a TV5 Canada. C'est le TV5 qu'on a, ne diffuse pas l'émission que tu animes, mais c'est quand même extraordinaire. Et ce que je comprends aussi, Wanda, c'est que cette émission, elle est tournée en Afrique.
Oui, c'est ça. Elle est tournée en Afrique. En fait, on a une équipe canadienne qui va avec moi, qui m'accompagne en Afrique, dans plusieurs pays africains, dont les saisons, c'est chaque pays a sa saison. Voilà, là on est à la troisième saison qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Et là, pour cette émission-là, c'est les enfants qui viennent me raconter leurs histoires, leurs contes. Au lieu qu'ils m'écoutent conter, comme ils ont l'habitude de faire, eh bien, c'est eux qui viennent me raconter leur conte. Et de ce conte-là, coule une leçon de morale qu'ils débattent entre eux. Et c'est souvent intéressant de penser que les enfants n'ont rien à dire ou ne savent pas ce qui se passe. Alors, il faut voir l'émission pour se rendre compte que, eh bien non, ils ont énormément de choses à dire. Ils sont tellement intelligents. Ils sont peut-être même plus dans la réalité que nous, les adultes.
D'ailleurs, ça fait partie de ta grande mission, si je ne me trompe pas, c'est de donner la parole aux enfants.
C'est vraiment ça. C'est le point commun dans tout ce que je fais, que ce soit dans les contes, que ce soit dans les livres, que ce soit justement avec cette émission, c'est donner la place aux enfants. La place, mais la place pour les écouter, pour respecter ce qu'ils disent, leur manière de penser. Ici, enfin, il y a des pays où on a tendance à penser que les enfants en font trop. Mais il y a d'autres où ils n'en font, j'ai envie de dire, pas du tout, pour ne même pas dire assez et pas assez. Ils n'en font rien du tout. Il y a des pays où on a l'impression que les enfants ne sont que les sous-êtres humains ou des moitiés, et qui ne sont pas encore à part entière, les êtres totalement formés. Alors que non, non. Un enfant a son mot à dire sur tout ce qu'il vit et au quotidien. Et c'est ça, justement, mon défi et la joie que j'ai de pouvoir le faire au quotidien.
Est-ce que c'est un peu la petite revanche de Wanda du Cameroun qui n'avait peut-être pas autant l'occasion qu'elle le voulait de dire tout ce qu'elle pensait? Et là, tu donnes la parole aux enfants.
Et comment tu l'as trouvé? Comment tu l'as su, ça?
J'ai deviné.
C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est pour ça, c'est tellement jouissif pour moi d'être en compagnie avec des enfants. En fait, je me retrouve quand j'étais enfant. Ce qu'ils vivent, je l'ai vécu. Donc, c'est souvent étonnant que les gens me disent « Mais toi, on dirait que tu es un enfant. » Vraiment, quand je suis avec les enfants, et ce n'est plus le fait que je sois adulte ou pas, c'est seulement qu'est-ce qui se passe. Oui, j'ai la chance d'avoir un peu plus d'expérience, du vécu derrière moi, mais quand je suis en leur compagnie, on vit la même chose, quoi. Je me replonge dans mon enfance et oui, c'est vraiment une revanche à la vie d'abord. Mmh. Et j'espère qu'au moins un des enfants que je rencontre arrive quand même à trouver, après mon passage, des occasions de s'exprimer.
Et est-ce que tu continues, ces jours-ci, je sais que l'émission de télévision est très prenante, mais est-ce que tu continues à faire des spectacles dans les écoles, à aller faire des contes, dans des salles de spectacle, soit à Vancouver ou ailleurs?
Oui, on m'appelle encore, mais je ne le fais pas beaucoup, parce que comme tu viens de le dire, je manque vraiment de temps, malheureusement.
C'est une question de temps, c'est pas une question de désir, parce que tu adores faire ça.
Ah non, c'est vraiment une question de temps. Le désir est là et j'espère qu'il restera là. Je vois d'ailleurs pas comment il pourrait me quitter, quoi, ce désir-là.
J'aimerais que tu nous parles du multiculturalisme, autant dans tes livres que dans tes spectacles, parce que Vancouver, justement, c'est une ville multiculturelle. Comment ça s'intègre dans ton œuvre?
Mais ça s'intègre de manière naturelle. Parce que si on part du principe que la petite Wanda au Cameroun, née d'un pasteur qui est appelé à se déplacer d'une région à l'autre, dont là aussi la culture change. Pour les gens qui connaissent le Cameroun, on a énormément de cultures au Cameroun. On n'a pas qu'une seule culture, pas deux, pas trois. D'où d'ailleurs le pays qui a ce surnom de l'Afrique en miniature. C'est le Cameroun. Donc, à chaque fois qu'on devait se déplacer, ben, on avait affaire à une autre culture. Là, je parle bien sûr pas de la culture de la peau. Je parle vraiment au niveau sens basique du terme culture. Donc, pour moi, quand je crie ou quand je fais des contes, c'est juste une question naturelle parce que ça me parle. Donc, il est logique que ce soit dans mes spectacles, dans mes livres, que cette culture, ce multiculturalisme se ressente.
D'accord. Parle-moi de Jamais, Jamais Swahili. D'abord, Swahili, c'est le nom d'une petite fille dans un de tes livres, mais c'est aussi la langue qui est la plus parlée en Afrique. Et cette petite fille-là est blanche. Parle-moi un petit peu de l'inspiration et de l'histoire de ce livre-là.
Jamais, Jamais Swahili, effectivement, est une petite fille blanche, mais dont les parents ont été en Afrique et ils ont adoré l'Afrique. Et c'est pour ça qu'ils lui ont donné ce prénom de Swahili. La petite fille Swahili est tellement belle. Elle est blonde avec des grands cheveux magnifiques. Elle reçoit des cadeaux à longueur des journées, pas seulement au niveau de l'anniversaire, hein, pas seulement quand il s'agit de son anniversaire, mais tout le temps. On lui raconte des histoires. Mais Swahili ne s'aime pas. On ne sait pas d'où ça lui sort. Swahili, dans sa tête, elle n'est pas assez aimée et elle n'est pas assez jolie que son amie Ashuka, qui, elle, est une noire, très, très noire, avec les traits à l'africaine. Mais dans la tête de Swahili, la blonde, il n'y en a que pour Ashuka. Ashuka, elle est belle comme ça. Ashuka est intelligente comme ça. Alors, Swahili veut devenir Ashuka. Et là, elle va se renseigner. On lui dit, mais écoute, mais c'est normal qu'on la trouve belle. Regarde les jolies tresses qu'elle a. C'est quand même pas donné à tout le monde. Et là, Swahili s'est dit, mais si ce n'est qu'une histoire de tresses, mais je peux le faire. Et bien là, elle commence sa transformation en changeant ses cheveux. Mais elle a oublié que pour faire changer des choses, ce n'est pas si évident que ça. Swahili va se retrouver ressembler à un petit garçon. Ce n'est pas ce qu'elle voulait vraiment. Et même ses amis qui l'aimaient avant en tant qu'une petite blonde toute belle ne vont plus l'aimer. Et après, heureusement pour Swahili, elle va quand même comprendre qu'il est mieux qu'on soit qui on est, qu'on reste ce qu'on est et qu'on apprenne à s'apprécier. Ça, c'est l'histoire de Swahili.
Voilà. Je ne pensais pas que tu en ferais un conte, mais c'est exactement... Ça, c'est exactement Wanda Jemli, j'ai l'impression. Ce qu'on vient d'entendre, c'est toi en spectacle.
Je ne pensais pas compter, hein, mais il faut croire que c'est naturel.
Alors donc, on a parlé un petit peu de cette absence de morale. Comme, ça, c'est quelque chose qui semble important pour toi. Tu ne veux pas dire aux jeunes comment penser, tu veux plutôt susciter leur réflexion. Est-ce que c'est vrai?
Définitivement.
Oui.
Définitivement. On va le voir d'ailleurs dans mes livres. Souvent, les lecteurs sont déçus. Parce qu'ils attendent que je donne des leçons de morale. Mais je ne donne pas. Je ne suis pas une donneuse de leçons de morale. Qui suis-je pour donner des leçons de morale? Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Moi, tout ce que je recherche, c'est qu'on donne les occasions de discuter avec les enfants, qu'on écoute les enfants, qu'on parle ensemble. Alors pour ça, je sors un sujet qui me tient à cœur et je vous laisse l'occasion d'ouvrir un débat autour de ce thème. Voilà, c'est tout.
D'accord. Je regardais ta page Facebook, Wanda, et quand tu remercies les enfants, tu remercies tes neveux et tes nièces parce que je pense que les enfants t'appellent Tata Wanda.
Oui, Tata Wanda, ça veut dire tante. Tante Wanda. Partout où je passe, c'est Tata Wanda. Et même les parents, hein? Les parents aussi m'appellent Tata Wanda. Et ça, j'adore. Donc, je parle à mes neveux et nièces tout le temps.
Et d'ailleurs, tes livres, les trois premiers, en tout cas, étaient sous édition Tata. C'est bien ça?
Oui,
qui était ta propre maison d'édition. Et prochainement, ils vont être réédités, si je ne me trompe pas, dans une maison d'ici, du Manitoba.
Oui, avec les éditions La Plaine. Il y a un livre qui va sortir bientôt. Et je suis vraiment ravie de cette réédition, tout simplement parce qu'ils ont déjà respecté mon texte. Hein. Ils n'ont pas beaucoup changé, mais ils l'ont adapté à la culture canadienne.
D'accord, d'accord.
Ça veut dire avec beaucoup de pudeur, beaucoup d'élégance, et j'adore ça.
Et je sais que ton emploi du temps est vraiment très, très chargé, qu'un de tes souhaits, d'ailleurs, c'est de pouvoir de pouvoir peut-être avoir un peu plus de temps pour écrire.
Oui, oui, c'est ça. Et c'est vraiment ça mon grand problème, le temps.
Le temps, le fameux temps.
Mais j'espère que très bientôt, je vais pouvoir m'organiser pour avoir ce temps. Parce que non seulement écrire est un moment très relaxant pour moi, mais ça, c'est aussi un moment d'apaisement autant physique que psychologique. Oui. Donc, c'est un besoin que j'ai.
Bien, on te le souhaite, ma chère. Et puis, on souhaite que tu sois longtemps parmi nos enfants, autant à Vancouver que partout ailleurs. Puis qu'un jour, peut-être, on pourra te voir à la télévision, même ici au Canada, peut-être. Sait-on jamais?
Oui, sait-on jamais. Ne parlons pas trop vite. Il y a quelque chose qui s'étreint, donc on croise les doigts.
on se croise les doigts. Ça a été un grand, grand plaisir de te parler. Merci infiniment.
Merci beaucoup. Merci et bonne journée à vous.
Raconte-moi, Tata Wanda est une production de WebWest Balado animée par Jean Fontaine et réalisée par Yann Dallaire. Notre invité, Wanda Jemli.